Du coup, moi, je suis plutôt auteur, romancier qu'écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui est dans le travail de l'écriture à proprement parler, mais de manière globale, qui peut aller jusqu'à... un journaliste, c'est un écrivain. Un écrivain public, c'est un écrivain, forcément. Il y a beaucoup de choses qui sont autour du travail d'écriture. Moi, je me définis plus comme un auteur romancier parce que j'écris du roman, principalement. Et tout ce que je fais autour de ça, ça reste forcément du travail d'écriture, mais ça reste de la fiction, donc du coup, qui se relie au roman.
Cet été, des jeunes de 10 à 15 ans ont passé une semaine au centre socio-culturel intercommunal de l'Ostrevan et de la Sensée avec Hervé Hernu, auteur. Avec lui, ils ont imaginé une intrigue policière qui deviendra un jeu sous forme d'application permettant de découvrir le village d'Étré dans le Douaisis. Rencontre avec l'auteur Hervé Hernu le 31 juillet 2020.
Moi, j'ai toujours eu un besoin de raconter des histoires, d'inventer des histoires depuis tout petit à mes sœurs. Tout ça, par exemple, j'aimais bien leur faire peur dans le noir, raconter des histoires. J'inventais comme ça en allant, mais du coup, c'était un peu théâtral, mais pas trop. Et puis, par contre, contrairement à aujourd'hui, je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas l'école. Et à l'âge de 13 ans, enfin, ma mère était fan de romans policiers. Elle adorait lisait principalement que Marion Guisclark à l'époque. Et un jour, en vacances, j'ai eu un accident. Ma mère avait deux livres, deux romans policiers. Elle en lisait un, il en avait un de dispo. Je me suis dit, essaye. Ça a été la révélation. Et je me suis dit, c'est pas cette fin-là que j'ai envie de lire. J'avais imaginé autre chose, j'ai envie de l'écrire. Donc je l'ai posé sur le papier. Et c'est comme ça que ça a commencé, ça a débloqué... l'envie de raconter des histoires et de la manière dont on les raconte, du coup, par l'écriture à ce moment-là.
La lecture, quand elle n'est pas contrainte, elle est plus liée au plaisir, il y a plus de plaisir, parce que c'est vrai qu'on a tous des souvenirs de lecture scolaire qui n'étaient peut-être pas ce qu'on avait envie de lire à ce moment-là.
Alors moi, je sais que du coup, tout ce qu'on a dû lire, ça m'a complètement repoussé. Et ça m'a fait peur, la lecture pour moi, c'était pas du tout quelque chose de plaisant. Et je n'aimais pas ça, à cause effectivement de ce fait de cette contrainte. Et en fait, ce que je dis toujours, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles, principalement en primaire, mais aussi au lycée, au collège, ce que je dis toujours aux enfants, aux ados, c'est que s'ils n'aiment pas lire actuellement, s'ils n'y prennent pas de plaisir, c'est qu'en fait, ils n'ont tout simplement pas trouvé le livre. Et le livre dedans, ça peut être du manga, ça peut être de la BD, ça peut être un magazine. Ils n'ont pas trouvé l'élément qui leur plaît et qui, peut donner une satisfaction à la lecture, tout simplement.
Trouver le livre, trouver également le moment. Aujourd'hui, est-ce que les smartphones, les tablettes, les outils vont priver de la possibilité de trouver ce moment, peut-être ? Ou alors, est-ce qu'il faut partir dans une zone blanche pour n'avoir que ça à faire finalement et se retrouver avec zéro réseau ?
Oui et non. Je pense que c'est complètement différent pour chacun. Ça appartient à la manière dont on perçoit les choses et dont on arrive du coup à réguler ce qu'on va faire la journée en fonction de ses envies. Moi, je rencontre beaucoup de personnes sur des salons du livre ou dans des dédicaces qui sont accros à la lecture, qui lisent jusqu'à 4-5 livres par semaine. Ça représente un énorme budget, c'est des énormes lecteurs, et ils ne font que ça. Donc ces personnes-là, je pense qu'elles ne regardent pas trop la télé, elles font que lire en fait. Il y a ça, et puis après il y a d'autres personnes, je me prends en exemple, moi je lis, mais je ne lis pas énormément, parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à rester concentré. Quand je vais lire, ou même quand je regarde un film ou une série, j'ai tout de suite en fait mon imagination qui travaille, donc du coup ça c'est un travail intérieur pour bloquer, faire barrière en fait tout simplement, parce que du coup je ne serais pas concentré sur ce que je suis en train de faire et je pars dans l'imaginaire. Et donc ça me pose beaucoup de problèmes surtout à la lecture, parce qu'il faut rattraper le train, donc non, il faut revenir en arrière, relire. Donc lire, je suis assez lent dans la lecture, mais je lis quand même beaucoup.
Quand on tricote des histoires, on commence par quoi ? Comment ça fonctionne chez toi ?
Alors, chez moi et chez la plupart des écrivains, justement, et auteurs, du coup, c'est complètement différent. C'est vraiment propre à chacun, parce qu'il y a énormément de manières de commencer. Moi, j'en ai vécu plusieurs, donc du coup, j'ai pas un secret, il n'y a pas une méthode. La seule chose qui est importante, en fait, c'est l'envie de raconter une histoire. il faut trouver un sujet. Sauf que forcément, trouver un sujet qui n'a jamais été abordé dans un autre livre, c'est impossible aujourd'hui parce que tout a été abordé. Mais tout évolue aussi, donc du coup, on peut aborder les choses de manière complètement différente. L'important, en fait, c'est le point de vue et c'est la manière dont on va attaquer les choses. Moi, j'ai d'abord un thème ou une envie, une scène, ça peut être un crime, ça peut être une disparition, et c'est par rapport en lien directement en fait, avec ce que je vis, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, ce que je peux voir dans les médias, ce que je peux voir à la télé, dans les films, au cinéma, dans les séries, dans la lecture, ou dans la vie de tous les jours. Je donne toujours cet exemple-là, le deuxième roman que j'ai publié aux éditions Ravenso. L'idée, en fait, est venue quand j'étais dans une voiture près d'un cimetière. J'attendais quelqu'un et puis il y a eu un bruit à droite, du coup à la portière passagère, et quelqu'un qui est passé très très vite. Et je me suis dit, oh, j'ai eu l'impression en fait que quelqu'un allait rentrer dans la voiture. Et là, je me suis dit, ah, si cette personne elle avait une arme, qu'est-ce qui se passerait après? Et en fait, c'est démarré de là. Et ce passage, il est dans mon bouquin et c'est parti de là en fait.
Le titre?
À sens unique.
On le trouve encore ?
On le trouve encore en librairie, oui, tout à fait.
Comme nombre d'auteurs, Hervé Hernu, pour vivre, ne peut se contenter de son travail d'écriture. C'est pourquoi il multiplie les activités, comme cet été, avec les jeunes du Centre socio-culturel intercommunal de l'Ostrevent et de la Sensée.
Moi, je ne vis pas uniquement de ma plume, et j'en connais très très peu qui vivent de leur plume. C'est quelque chose qui existe, mais qui est très 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 rare quand même. Parce que grâce et à cause d'Internet, des réseaux, tout ça fait que de plus en plus de monde peuvent accéder au monde de l'édition. Mais donc du coup, ça réduit de manière très considérable le champ d'action et la possibilité d'être sur un piédestal et de pouvoir accéder à de plus en plus de lecteurs. J'accède de plus en plus à de lecteurs, comme d'autres auteurs. Après, forcément, je pense qu'il faut bien maîtriser du coup les outils technologiques et les réseaux sociaux pour pouvoir se faire un parcours, pas sans faute, mais le plus adapté à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de devenir en fait, tout simplement.
Alors le travail réalisé avec les ados pendant cette semaine, c'est une partie également du travail de l'auteur ?
Moi, en tant qu'auteur, effectivement, alors faut savoir que du coup, je ne fais pas que ça, forcément, puisque je ne vis pas de ma plume. Et donc, j'écris des livres, mais avant ça, moi, j'étais professeur de danse et je suis toujours professeur de danse. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Et il y a tout ce côté pédagogique pour apporter des choses et passer par certains chemins qui m'est fort utile à travers l'écriture. Parce que, en fait, si on prend en considération que la danse, c'est un moyen d'expression, l'écriture, c'est un moyen d'expression. Et j'ai une autre facette, je suis vidéaste. En fait, je travaille avec des entreprises, des territoires, des offices de tourisme pour faire de la vidéo de promotion également. Mais donc du coup, là, en tant que prestataire vidéo, et donc, c'est un outil de communication et d'expression par l'image.
Avec les ados, quel est le vecteur qui a été mis aujourd'hui le plus en avant pour travailler avec eux sur cette semaine ?
Alors moi, mon rôle, là, c'est l'écriture. Le vecteur, c'est l'écriture. Donc du coup, c'est transposer du coup, la réalité, ce qui existe réellement, pour pouvoir aller jusque dans l'imaginaire et créer une histoire globale avec de l'action et plein d'éléments qui vont créer du coup cette sorte de jeu de piste qu'on peut appeler une sorte de rallye enquête dans la réalité et l'inclure du coup ensuite dans le numérique.
Écrire une fiction dans la réalité, on a le souci du plausible ou alors tout est permis, on peut partir très loin?
On peut partir très loin parce que du coup, je n'ai pas envie de les bloquer. Ce que je dis toujours aux enfants en premier, c'est les fautes d'orthographe, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire du français, on est là pour travailler l'imagination. Donc du coup, vous allez créer une histoire et vous allez la créer ensemble. Et parce que le mot ensemble est très important, parce que souvent dans un groupe, ça peut partir dans tous les sens. Et l'important aussi, c'est de pouvoir l'ancrer dans un territoire. Et c'était du coup la consigne qui était imposée et qui, pour moi, est totalement logique, parce que du coup, ça permet de partir d'un élément réel qui part vers l'imaginaire. C'est comme ça que marche l'inspiration. Faut partir d'un élément pour pouvoir créer quelque chose. Et donc là, on a choisi de faire un parcours un peu historique sur la vie de Détré, qui a permis du coup de prendre connaissance du territoire, mais de manière historique. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a comme monument important, voilà. Et ensuite, on a fait une deuxième parcours, de manière plus aléatoire, où on a décidé ensemble quel chemin prendre et ce qu'il fallait trouver. Donc du coup, ça pouvait être des petits détails sur des maisons, de la brique, des coins un peu plus sombres, pour imaginer un peu plus notre histoire, en fait.
Et le tout en tramant justement une dramaturgie, on avance dans l'histoire au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue.
Oui et non, parce qu'en fait, on a fait d'abord la première visite historique, ensuite on est parti sur l'imagination, donc du coup on a vu un peu comment se situe Étré, comment sont composées les rues, et puis je leur dis, bon voilà, moi le point de départ c'est du coup Étré, qu'est-ce qui peut se passer, voilà comment on écrit une histoire, donc je leur explique un petit peu comment ça se passe, mais c'est eux qui le font, puisque ça se passe en forme de débat, et donc du coup effectivement, pour démarrer une histoire, il faut un événement qui va déclencher l'histoire. Qu'est-ce qui peut déclencher une histoire ? Donc là, ils me donnent leurs idées. Et puis, je les amène à comprendre que certaines idées, en fait, elles ne sont pas assez importantes pour enclencher une histoire. Et donc, du coup, il faut un événement vraiment important dans le polar, du coup, parce que ça reste un roman policier. C'est un meurtre, une disparition, un cambriolage. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, ils ont choisi, ils sont partis de là. Et ensuite, il suffit juste de décliner les possibilités. Et donc, du coup, par idée, après, on fait un vote et chacun donne son avis pour pouvoir construire l'histoire petit à petit. Et seulement ensuite, on est retourné visiter le lieu de manière plus aléatoire, où du coup, ils avaient déjà une idée de l'histoire en tête et ils se sont dit ben ça peut être intéressant pour tel passage, là, on peut faire vivre tel personnage, il se passera telle chose. Et seulement après, on a créé les personnages parce que du coup, on avait une idée, une base d'histoire et on savait combien de personnages il fallait créer.
C'est plus compliqué d'écrire à plusieurs mains que d'écrire tout seul. C'est plus simple de danser seul que de danser en groupe. Une chorégraphie collective, c'est plus compliqué, tout comme une écriture, ou c'est un autre travail, ça n'a absolument rien à voir, on ne peut pas comparer.
Alors c'est un autre travail, mais ça peut être comparable. Forcément, on a l'impression que quand on écrit à plusieurs, c'est plus facile, puisqu'il n'y a plus de cerveau, il y a plus de mains. Mais en fait, non, c'est l'inverse. C'est un travail, on dit toujours que l'écriture, c'est un travail solitaire. En fait, pas du tout. Forcément, on est seul quand on écrit, de manière générale. Et ensuite, du coup, le travail est partagé avec d'autres personnes qui vont travailler également sur le manuscrit, parce que je parle de manuscrit. Là, du coup, c'est différent parce que c'est un projet qui est encadré, du coup, avec moi et d'autres personnes. Mais c'est difficile parce qu'on peut toujours perdre quelqu'un, ou alors si par exemple un des enfants a toujours des idées mais que du coup elles ne sont pas retenues par les autres, ça peut le frustrer et donc créer un blocage. Donc du coup le plus compliqué, je dirais, c'est de pouvoir harmoniser et de mettre en place du coup un accord d'ensemble et que tout le monde soit OK sur tout ce qui aura été fait, tout ce qui aura été dit et mis en place.
Hervé Hernu, auteur, qui cet été a donc encadré des jeunes de 10 à 15 ans avec le Centre socioculturel intercommunal de l'Ostrevent et de la Sensée pour écrire une intrigue qui deviendra un jeu sous forme d'application permettant de découvrir le village d'Étré et qui sera présenté à l'automne 2020. Interview réalisée le 31 juillet 2020 par Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.